L'Hôtel des Morts, Henry James. Partie 1 sur 3. Chapitre 1. Il avait une mortelle aversion pour les anniversaires nébuleux, le pauvre Strandsom. Et les aimait encore moins quand ils prétendaient à quelque importance. Les célébrer ou les supprimer lui était également pénible, et seule une célébration avait trouvé place dans sa vie. Chaque année, il avait observé à sa manière la date de la mort de Marie-Antrim. Peut-être serait-il plus exact de dire que chaque année, au retour de cette date, le souvenir s'emparait de lui. Obsession tyrannique qui empêchait Strandsom de faire quoi que ce fût d'autre en ce jour. Il s'éveillait pour cette fête du souvenir aussi consciemment qu'il se fût éveillé au matin de son mariage. Le mariage n'avait eu naguère que trop peu à voir en la matière. Pour la jeune fille qui avait dû être son épouse, il n'y avait point eu de baiser nuptial. Elle était morte d'une fièvre maligne après que le jour du mariage eût été fixé. Il avait perdu, avant de l'avoir véritablement goûtée, une affection qui promettait de remplir sa vie. Du bienfait de cette affection, toutefois, il eût été faux de dire que sa vie pût être réellement privée. Elle était encore régie par un pâle fantôme, encore ordonnée par une présence souveraine. Strandsom n'avait jamais été l'homme des passions nombreuses. Et même à mesure que les années s'écoulaient, nul sentiment ne s'était autant accru en lui que le sentiment d'être intimement dépouillé. Il n'avait eu besoin ni de prêtre ni d'autel pour consacrer un éternel veuvage. Il avait fait bien des choses en ce monde. Il les avait presque toutes faites, à l'exception d'une seule. Il n'avait jamais oublié. Il avait essayé d'introduire dans son existence tout ce qui eût pu en combler le vide, mais il n'était pas parvenu à en faire autre chose qu'une maison dont la maîtresse était éternellement absente. Elle ne l'était jamais davantage qu'à chaque retour de ce jour de décembre qu'isolait la fidélité de sa mémoire. Les rites de la journée n'étaient pas arrangés d'avance. Elle était entièrement à la merci des nerfs de Strandsom, qui le poussait impitoyablement hors de chez lui. Le terme de son pèlerinage était éloigné. Elle avait été enterrée dans un coin de la banlieue de Londres, alors épargnée par la civilisation, et que Strandsom avait vu, d'année en année, perdre jusqu'au dernier vestige de fraîcheur. À vrai dire, les moments qu'il y passait étaient ceux où il avait le moins conscience du décor qui l'entourait. Ses yeux contemplaient une autre image, il s'ouvrait à une autre lumière. Était-il tourné vers un au-delà auquel il fut possible de croire, ou regardait-il vers un passé qui s'effaçait dans l'irréel ? Quelle que fût la réponse, c'était en tout cas une immense évasion hors de la réalité présente. S'il est vrai que s'il n'y avait pas dans la vie de Strandsom d'autres dates, elle contenait pourtant d'autres souvenirs. Et, dans sa 55e année, les souvenirs de cet ordre s'étaient multipliés. Il y avait d'autres fantômes que celui de Marie-Antrim. Il n'avait peut-être pas eu plus de deuil que la plupart des hommes, mais il les avait comptés davantage. Il n'avait pas vu la mort de plus près, mais il l'avait, en quelque sorte, sentie plus profondément. Petit à petit, il avait pris l'habitude de dénombrer ses morts. De bonne heure, au cours de sa vie, l'idée lui était venue que l'on pourrait faire quelque chose pour eux. Ils étaient là, dans leur essence consciente, leur patience expressive, témoins frappés de mutisme. Quand tout sentiment de leur présence venait à manquer, quand on cessait, pour ainsi dire, de percevoir leur lointain murmure, alors semblait commencer pour eux le purgatoire sur cette terre. ils demandaient si peu les pauvres disparus qu'ils obtenaient encore moins, et ils mouraient à nouveau. Ils mouraient chaque jour sous le dur traitement de la vie. Ils n'avaient ni office régulièrement institué, ni sanctuaire réservé. Ils n'avaient ni honneur, ni abri, ni sécurité. Même les gens dépourvus de générosité subvenaient aux besoins des vivants. Mais les généreux même ne faisaient rien pour les autres. C'est pourquoi Hans Transome avait grandi, avec les années, la résolution que lui, du moins, ferait quelque chose pour ses morts, qu'il s'acquitterait de la suprême charité sans reproche. Chaque homme avait ses propres morts et chaque homme possédait pour faire face à cette charité les amples ressources de l'âme. C'était sans doute la voix de Marie Antrimes qui plaidait le mieux leur cause. Comme de toute façon les années s'écoulaient en communion constante avec ces autres qu'on laissait attendre, ce que toujours dans ses pensées il nommait « les autres », il leur consacra des heures, il organisa son aumône. Comment au juste cette idée avait-elle surgi, il n'aurait sans doute jamais pu le dire. Mais le résultat fut qu'un autel illuminé de cierges dédié à ce culte secret s'édifia dans le cadre de sa vie spirituelle. Depuis longtemps, Transome se demandait avec embarras s'il avait une religion. Très sûr et non à demi satisfait de ne pas avoir en tout cas la religion que certaines gens eussent souhaité qu'il eût. Peu à peu, cette question se simplifia à ses yeux. Il devint clair pour lui que la religion qui s'était instituée en sa conscience primitive était simplement la religion des morts. Elle convenait à son inclination, elle satisfaisait son esprit, elle donnait une raison d'être à sa piété, elle répondait à son goût pour les cérémonies d'un rite solennel et magnifique. De ces choses, il ne se faisait nulle idée, sauf qu'il les croyait accessibles à ceux qui en sentaient le besoin. Le plus pauvre pouvait édifier de semblables temples de l'esprit, pouvait les illuminer de cierges et les envelopper d'encens, pouvait les embellir d'images et de fleurs. Les frais d'entretien, suivant l'expression courante, incombaient entièrement à la générosité de son cœur. Chapitre 2. Il sentait en cette année, en ce jour, veille de son anniversaire, une émotion déjà éprouvée qui n'était pas sans rapport avec cet ordre de sensations. Comme il rentrait chez lui à la fin d'une journée occupée, il fut frappé, dans une rue de Londres, par l'aspect d'une devanture de magasin dont l'éclat illuminait l'atmosphère brune et triste. Plusieurs personnes arrêtées contemplait cette vitrine de bijoutier. Les diamants et les saphirs semblaient rire aux éclats comme des notes riches en son, dans la simple joie de savoir combien plus ils valaient que ces misérables piétons qui les contemplaient à travers la vitre. Transome s'arrêta assez longtemps pour s'imaginer suspendant un collier de perles autour du cou blanc de Marie Antrimes. Puis, le son d'une voix connue le retint un instant encore. Près de lui était une vieille qui grommelait, et plus loin, un monsieur et une dame. C'était de lui, de Paul Creston, que la voix était venue. Il parlait à la jeune femme de quelques objets précieux de la vitrine. À peine Transome avait-il reconnu son ami que la vieille femme s'en fut. Surpris par la soudaine facilité qu'il avait d'aller vers le couple, un sentiment étrange le retint au moment de poser sa main sur le bras de son ami. Cela ne dura qu'un instant, mais cet instant suffit pour qu'une question saugrenue se présentât à son esprit. Madame Creston n'était-elle pas morte? Le doute le prit à entendre l'arrêt brusque de la voix du mari, arrêt familier. Infliction conjugale, si jamais il en fut, et à voir la manière dont les deux silhouettes s'appuyaient l'une à l'autre. Creston, faisant un pas pour regarder autre chose, s'approcha de lui, lui jeta un regard, sursauta et s'exclama attitude dont l'effet immédiat fut de reporter Stransom en arrière de plusieurs mois et d'évoquer la figure différente, absolument différente, que lui avait montrée en dernier lieu le pauvre homme, masque tuméfié, ravagé, incliné sur la tombe ouverte auprès de laquelle ils se tenaient tous. Ce fils de la douleur n'était plus en deuil maintenant. Il détacha son bras de celui de sa compagne pour serrer la main de l'ami d'autrefois. Il rougit en même temps qu'il sourit dans la lumière crue de la vitrine quand Stransom s'aventura à soulever son chapeau devant la dame. Stransom eut juste le temps de voir qu'elle était jolie avant de se trouver, bouche bée, devant une réalité plus stupéfiante. « Mon cher ami, laissez-moi vous présenter ma femme. » Creston avait rougi et balbutié, mais en une demi-minute, au train où vit notre société polie, il n'y avait plus pour notre ami que le simple souvenir d'un choc. Il se tenait là, riait et parlait. Stransom avait immédiatement écarté le choc, se réservant de le méditer en la solitude. Il se sentit grimacer, il s'entendit exagérer les formules de politesse, tout en ayant conscience de se trouver mal à demi. Cette nouvelle femme, cette figurante engagée, Mistress Creston. Le visage de cette femme rayonnait autant que la vitrine du bijoutier, et la joyeuse candeur avec laquelle elle jouait son rôle monstrueux faisait l'effet d'un grossier manque de tact. Voir attribuer à cette personne le rôle de Paul Creston paraissait monstrueux à Stransom. Et cela pour mille raisons. Creston eût dû le comprendre. Le recouple débarquait à peine d'Amérique et Stransom n'avait point eu besoin d'apprendre cela pour deviner la nationalité de cette dame. Cela même accentuait encore, en quelque sorte, l'air niais que la cordialité confuse du mari essayait vainement de dissimuler. Stransom se souvint d'avoir entendu dire qu'au vif de son chagrin, ce pauvre Creston avait traversé l'océan pour ce que le monde a coutume d'appeler en pareil cas un petit changement. Il l'avait en effet trouvé, le petit changement. Il l'avait même ramené. C'était le petit changement qui se tenait à côté de lui, et quoi qu'il fît, il ne pouvait, là, découvrant ses grandes dents, avoir d'autre aspect que celui d'un âne et en avoir conscience. Ils allaient entrer dans la boutique, dit Mistress Creston, et elle pria Stransom de venir les aider à choisir. Il la remercia, regarda sa montre et prétexta un rendez-vous pour lequel il était déjà en retard. Tandis qu'ils se séparaient, elle cria au travers du brouillard « N'oubliez pas de venir me voir dès que vous pourrez !» Creston avait eu la délicatesse de ne pas suggérer cela et Stransom espérait qu'il souffrait de l'entendre prononcer à voix haute. En s'éloignant, Stransom se sentit bien déterminé à ne jamais approcher cette femme de sa vie. Elle était peut-être une créature humaine, mais Creston n'eût pas dû l'exhiber ainsi, sans prendre garde, n'eût même pas dû la montrer du tout. Ses précautions, alors, eussent été celles du faussaire et de l'assassin, et personne n'aurait songé à l'extradition. C'était une femme d'exportation pour usage à l'étranger ou service purement extérieur. Un instant d'une honnête réflexion de la part de Creston lui eût épargné l'injure des comparaisons. Telle fut la première vague de réaction chez Stransom. Mais tandis qu'il était assis, seul, ce soir-là, il y avait certaines heures qu'il passait toujours seul, la rigueur de son jugement s'apaisa et ne laissa en lui que de la pitié. Lui pouvait passer une soirée avec Kate Creston, si l'homme auquel elle avait tout donné ne le pouvait pas. Il l'avait connue durant 20 années. Elle était la seule femme pour laquelle il aurait pu devenir infidèle aux souvenirs de sa jeunesse. Elle était toute intelligence, toute sympathie, tout charme. Sa maison avait été la plus accueillante du monde et son amitié la plus solide. il l'avait aimé sans incident, et sans incident, tout le monde l'avait aimé. Elle avait rendu les passions nées autour d'elle aussi régulières que les marées attirées par la lune. Elle avait été sûrement beaucoup trop bonne à l'égard de son mari, mais il ne s'en était jamais douté. Et en rien, elle ne s'était montrée plus admirable que dans l'art exquis avec lequel elle s'efforçait d'empêcher tout le monde de s'en apercevoir. Et c'était là l'homme auquel elle avait consacré sa vie, l'homme pour lequel elle y avait renoncé, mourant en mettant au monde son enfant. Elle n'avait eu qu'à se soumettre à son destin, et avant même que l'herbe n'eût verdi sa tombe, elle n'existait pas plus pour lui qu'une servante remplacée. La frivolité, l'indécence de cette attitude emplirent de larmes les yeux de Stransom. Il avait ce soir l'impression profonde que lui seul, en ce monde sans délicatesse, avait le droit de tenir la tête haute. Il fumait après le dîner, tenant un livre sur ses genoux, mais n'avait point d'yeux pour la page ouverte. Ses yeux, dans le vide surplombé de choses qui l'entouraient, semblaient avoir rencontré ceux de Kate Creston, et c'était dans leur triste silence que plongeait son regard. C'était vers lui que l'esprit souffrant de Kate s'était tourné, sachant que c'était d'elle que s'occuperaient ses pensées. Il se demanda longtemps comment les yeux clos des mortes pouvaient vivre encore, comment ils pouvaient se rouvrir en la quiétude de cette chambre, à la lumière de la lampe, si longtemps après avoir regardé pour la dernière fois. Ils avaient des regards qui survivaient, ils avaient ces regards qui s'évoquaient au souvenir, comme s'évoquent certains vers des grands poètes. Le journal gisait près de la chaise. Sans avoir idée de ce qu'il pouvait contenir, Stransom l'avait déplié puis laissé tomber. Avant d'aller se coucher, il le ramassa et cette fois cinq mots en tête d'un paragraphe le frappèrent et le firent sursauter. Il restait là devant le feu, le regard fixé sur « Mort de Sir Acton Hague, de la Hague ». L'homme qui, 10 ans auparavant, avait été son meilleur ami et qui, une fois déchu de ce titre, n'avait jamais été remplacé. Il l'avait revu après leur rupture, mais cela remontait à quelques années. Debout devant le feu, il eut froid en lisant ce qui lui était arrivé. Acton Hague était mort du périlleux honneur de son exil, mort d'une maladie engendrée par la morsure d'un serpent venimeux. Sa carrière était résumée en une douzaine de lignes du journal, dont la lecture n'éveilla en Stransom nul sentiment plus chaud que le soulagement de n'y point voir mentionner le motif de leur querelle. Incident que la participation respective à d'importantes affaires avait revêtu à l'époque d'une odieuse publicité. Public, en effet, le tort que Stransom avait, à son point de vue, subi. Public, l'insulte qu'il avait passivement supportée du seul homme avec lequel il eût jamais eu d'intimité. L'ami presque adoré de ses années de collège, plus tard l'objet de sa fidélité passionnée. Si public qu'il n'en avait jamais parlé à aucune créature humaine. Si public qu'il n'y accordait plus aucune attention. Pour lui, la différence consistait en la fin de toute amitié. Mais cela n'avait jamais supprimé que cette seule amitié. Le choc des intérêts avait été privé, absolument privé, mais la conduite choisie par Hague avait été adoptée à la face de tous. Aujourd'hui, tout semblait être arrivé à seule fin que George Stransom pût se remémorer son ami comme Hague et se rendre compte de l'analogie qui existait entre lui, Stransom, et une pierre. Ayant froid, soudain, horriblement froid, il s'en fut se coucher. Chapitre 3. Le lendemain après-midi, dans le grand faubourg gris, il s'aperçut que sa longue promenade l'avait fatigué. Rien que dans le cimetière redouté, il s'était tenu une heure debout. Au retour, ses pieds l'avaient instinctivement entraîné par un chemin détourné vers un quartier désert où nul cocher ne rôdait à l'affût d'une proie. Il s'arrêta à un tournant et embrassa du regard la désolation du paysage. À travers le crépuscule qui tombait, il découvrit qu'il se trouvait dans une de ces voies de Londres qui sont moins sombres la nuit que le jour, grâce à la lumière, donc, de l'honnête municipalité. Le jour, rien n'éclairait. La nuit, il y avait des lampes. Et dans l'état d'esprit où se trouvait alors George Stransom, les lampes elles-mêmes lui paraissaient animées de bonté. Ce n'était pas qu'elles pussent rien lui révéler, c'était seulement qu'elles brûlaient avec une flamme claire. Cependant, à son grand étonnement, au bout d'un moment, elles lui firent voir quelque chose. L'arc d'un haut portail auquel accédaient des marches basses en terrasse, dont la profondeur formait une sorte de vestibule obscur, un rideau soulevé sur son passage, lui laissa entrevoir la perspective d'une avenue d'ombre avec, tout au bout, une lueur de cierge. Il s'arrêta et regarda, reconnut en cet édifice une église. L'idée lui vint immédiatement que, puisqu'il était fatigué, il pourrait se reposer là, si bien que, l'instant après, il avait écarté le rideau et était entré. C'était un temple de la vieille foi, et il était évident qu'un service venait d'avoir lieu. Un service pour les morts, peut-être. Le maître-autel était encore illuminé de cierges, spectacle que Stransom avait toujours aimé, et il éprouva un soulagement à se laisser tomber sur un siège. Plus que jamais cela ne l'avait encore frappé. Il lui parut bon qu'il y eût des églises. Celle-là était presque vide, les autres autels étaient obscurs, un bedeau allait et venait dans la nef. Une vieille femme toussa, mais Stransom crut sentir un courant hospitalier dans l'air lourd et suave. Est-ce dû seulement au parfum de l'encens? Il avait en tout cas quitté le faubourg gris et s'était rapproché du foyer réchauffant. Bientôt, il cessa de se sentir un intrus, acquérant enfin une sensation de communion avec le seul fidèle qui fut près de lui. Sombre présence d'une femme en grand deuil, dont il ne voyait que le dos. Elle était plongée dans une profonde prière, à une faible distance de lui. Il souhaita de pouvoir, comme elle, s'abîmer jusqu'au fond de son être, de pouvoir être aussi immobile, aussi ravi d'extase. Après quelques instants, il quitta sa chaise. Cela devenait indélicat de faire tant attention à cette femme. Stransom se perdit alors complètement, flottant à la dérive dans cet océan de lumière. Si de semblables occasions avaient été plus fréquentes au cours de sa vie, Stransom eut plus net dans son souvenir le type original et grandiose, et souvent reproduit, du temple tout idéal qu'il avait édifié en esprit. Cet autel s'était formé primitivement, d'après une vague réminiscence des pompes liturgiques. Puis, l'écho avait fini par devenir plus distinct que le son initial. Tandis qu'il était assis là, l'autel, devant ses yeux, devint peu à peu son propre autel, et l'étoile de chaque cierge, un vœu à lui personnel. Il les compta, les nomma, les groupa. Ce fut le silencieux rappel de ses morts. L'ensemble émettait une clarté intense, clarté devant laquelle la simple chapelle de son esprit s'estompa tellement qu'il se demanda s'il ne trouverait point sa véritable quiétude en quelque acte matériel, en quelque pratique extérieure d'un culte. Pendant qu'à distance la dame à la robe était toujours prostrée, cette idée s'empara de Stransom. Il se sentit doucement ému de cette conception et se leva tout à coup dans la soudaine excitation du plaisir qu'elle lui causait. Sans bruit, il erra le long des transepts, s'arrêtant aux différentes chapelles, toutes à l'exception d'une seule, consacrée à une dévotion particulière. Ce fut dans la niche claire, sans lampe et sans affectation, qu'il s'arrêta le plus longtemps. Aussi longtemps qu'il lui fallut pour bien préciser son projet de l'orner par sa propre générosité. Il la sauverait de tout autre culte, sans l'associer à rien de profane. Seulement, il la prendrait telle qu'on la lui céderait et en ferait un chef-d'œuvre de splendeur, une colline de feu. Entretenue dans l'année avec vénération, entourée par l'atmosphère sanctifiée de l'Église, elle serait toujours libre pour ses offices à lui. Il y aurait certes des difficultés, mais dès le début, elles apparurent à Stransom comme surmontées. Même pour une personne aussi peu initiée, c'était la chose arrangeable. D'avance, il voyait tout, et surtout, de quelle claire sérénité le lieu serait pour lui aux intervalles de ses occupations, dans la mélancolie des longs après-midi, de quelle richesse il lui serait en tout temps un gage parmi ce monde indifférent. Avant de se retirer, Stransom s'approcha à nouveau de l'endroit où il s'était assis d'abord. Et ce faisant, il rencontra la dame qu'il avait vue en prière et qui maintenant se dirigeait vers la porte. Elle le dépassa rapidement. Il n'eut qu'une vision fugitive de sa figure pâle et de ses yeux sans expression, presque sans regard. En cet instant, elle paraissait flétrie et magnifique. Telle fut l'origine du culte dorénavant public, quoique ésotérique, qu'il fut enfin possible à Stransom d'établir. Cela demanda un an, et la manière de procéder ainsi que le résultat eussent été pour tout observateur une vivante image de sa bonne foi. En réalité, personne ne fut au courant, personne sauf les seuls ecclésiastiques dont il avait promptement fait connaissance. Doucement surmonter les objections, puis éventuellement emporter l'acquiescement à son excentrique munificence. Naturellement, au commencement de ses démarches, Stransom avait été renvoyé à l'évêque, et l'évêque s'était montré délicieusement humain. L'évêque avait presque paru amusé, en tout cas le succès fut en vue à dater du moment où l'attitude désintéressée devint libérale en réponse aux libéralités. L'autel et la niche qui l'encadraient, ostensiblement consacrés à un culte familier, devaient être magnifiquement entretenus. La seule chose que Stransom se réservait à lui-même, c'était le nombre des cierges et la libre jouissance de son intention. Quand l'intention eut pris son plein développement, la jouissance devint plus grande même qu'il n'avait osé l'espérer. Quand il était éloigné de cet autel, il aimait à penser à ce qu'il avait ainsi réalisé. Il aimait à se convaincre encore de cette réalité quand il en était prêt. Il n'était pas souvent assez prêt pour qu'une visite à son autel n'eût, par force, le caractère d'un pèlerinage. Mais le temps qu'il consacrait à cette dévotion en vint à lui sembler plutôt une contribution à ses autres intérêts qu'une trahison à leur égard. Une vie, même surchargée, pouvait devenir plus facile quand on y avait ajouté une nouvelle raison d'être. Combien plus facile ! Ceux qui, remarquant les fréquentes disparitions de Stransom, donnaient une explication fort vulgaire à ce qu'ils avaient coutume d'appeler ses plongeons, ceux-là ne devinèrent jamais. Ces plongeons l'entraînaient en des profondeurs plus calmes que les profondes cavernes de la mer. Et au bout d'une ou deux de ces disparitions, cette habitude était devenue celle qu'il eût le plus coûté à notre ami d'abandonner. Maintenant, au moins, ils posséderaient quelque chose réellement à eux, ces morts. Et Stransom aimait à penser qu'il pourrait parfois s'identifier aux morts des autres personnes, de même que les morts des autres pourraient être invoqués sous les auspices du culte qu'il avait institué. Il lui semblait que celui, quel qu'il fût, qui plierait le genou sur le tapis que lui, Stransom, avait étendu à terre, agirait selon l'esprit de sa dévotion. Pour lui, chacune de ces lumières portait un nom et de temps en temps, une lumière nouvelle s'allumerait. Il s'était posé un principe fondamental, qu'il y aurait toujours place pour eux. Tous les gens, ceux qui passaient ou s'arrêtaient, ne voyaient qu'un hôtel, le plus resplendissant des hôtels. Et devant cet hôtel, un homme âgé, assis, immobile, plongé dans une rêverie ou dans un demi-sommeil, en subissait l'étrange fascination. Une partie de la satisfaction que ce lieu procurait à ce mystérieux et irrégulier adorateur venait de ce qu'il retrouvait là les années de sa vie écoulées, les liens, les affections, les luttes, les soumissions, les conquêtes, un ressouvenir de cet aventureux voyage dont les commencements et les fins des relations humaines marquent les étapes. Stransom se sentait généralement peu de goût pour le passé en tant que partie de sa propre histoire. En d'autres temps, en d'autres lieux, ce passé lui semblait surtout pitoyable à considérer et impossible à réparer. Mais, en cette occasion, il l'acceptait avec quelque chose de cette joie très réelle avec laquelle on se fait à un mal qui commence à céder au traitement. La vie, cette maladie, commence à un moment donné à céder au traitement du temps. Et c'était en ces heures de méditation que Stransom percevait le plus clairement cette réalité. Il était là, marqué, le jour où la première fois il avait fait connaissance avec la mort. Et les phrases successives de cette connaissance étaient symbolisées chacune par une flamme. Les groupes de flammes se faisaient plus nombreux car Stransom avait pénétré dans ce sombre défilé par où notre vie descend vers la tombe et au long duquel l'un des nôtres meurt chaque jour. C'était d'hier seulement que rayonnait la flamme blanchie de Kate Creston. Et déjà de plus récentes étoiles scintillaient au bout des cierges. Différentes personnes, pour lesquelles il n'avait jamais eu un intérêt très vif, se rapprochaient de lui en entrant dans les rangs de cette communauté. Tête par tête, il les comptait à nouveau jusqu'à ce qu'il se sentît semblable au berger devant son troupeau rassemblé. Et doué comme le berger de la vision des imperceptibles différences. Il connaissait chaque cierge séparément et jusqu'à la couleur de sa flamme. Il l'eût encore reconnu si sa place eût été changée. Pour d'autres imaginations, il pouvait représenter d'autres symboles, pourvu que ce fût un symbole devant lequel on garda le silence. C'était là son seul désir. Mais il avait intensément conscience de la note personnelle de chacun des cierges et du rôle distinct qu'elle jouait dans son concert. Il se prenait presque à souhaiter que certains de ses amis mourussent pour qu'il pût rétablir avec eux, de cette même façon, des relations plus charmantes que celles dont il pouvait jouir de leur vivant. En ce qui concerne les amis, dont les longs méridiens de ce globe nous séparent, ces relations de cette sorte ne pouvaient constituer qu'un progrès, les mettant instantanément à notre portée. Naturellement, il y avait des brèches dans la constellation, car Stransom savait que seule la prétention d'agir selon lui, même lui était permise, et chaque figure passant devant ses yeux dans les grandes ténèbres n'avait pas droit à un souvenir. Il y avait dans la mort même une étrange sanctification. Mais certaines figures étaient plus sanctifiées par l'oubli que par le souvenir. Le vide le plus frappant dans cette éblouissante phalange venait du souvenir d'Acton Hagg, qu'il essayait en vain de chasser. Pour Acton Hagg, nulle flamme ne pourrait jamais briller sur un autel à lui.